Pierre n'était pas très courageux dans ses paroles, mais il était téméraire dans ses paroles. Il disait, Seigneur, même si tous les disciples t'abandonnent, moi, je serai le seul à te suivre, à ne pas t'abandonner. Et puis, vous savez qu'il a abandonné le Seigneur dans ce récit que nous venons d'évoquer à nouveau. Pierre et les autres étaient imparfaits. Ils n'avaient pas trop d'assurance. Devant deux jeunes filles et quelques hommes, Pierre a tremblé, a eu peur, et parce qu'il a eu peur, il a menti pour protéger sa vie. Or, que voyons-nous quelques temps après? Que voyons-nous? Le jour d'avant-tour, vous vous rappelez que les disciples ont reçu le Saint-Esprit et une nouvelle vie a commencé pour eux. Une vie toute nouvelle. Une des premières preuves de cette transformation, de cette vie toute nouvelle, c'est que Pierre, qui avait peur de dire qu'il était avec Jésus quelques semaines plus tôt, a pris la parole le jour de la Pentecôte et a prêché devant plus de 3000 personnes en accusant même ces personnes d'avoir mis Jésus à mort alors qu'il était le Messie, le Sauveur du monde. Comment peut-on expliquer une si grande différence, un si grand changement? Bien sûr, le premier fait qu'il explique, et nous allons voir ce qu'il produit, le premier fait, c'est que le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit. Jésus avait dit, vous recevrez, dizaines de jours avant la Pentecôte, Jésus avait dit, en vente de remonter au ciel, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit, qui va descendre sur vous, et vous deviendrez mes témoins. C'est-à-dire que, non seulement vous n'aurez plus peur de dire que vous avez connu, que vous m'avez connu, comme Pierre l'avait fait quelques semaines avant, mais vous deviendrez mes témoins, vous parlerez de ce que vous avez vécu avec moi. Vous direz qui je suis, parce que je suis toujours le même. Et même en remontant au ciel, je vais demeurer avec vous par le Saint-Esprit. En quelque sorte, ce que Pierre avait renié, ce que Pierre avait nié être, c'est-à-dire un ami de Jésus, par le Saint-Esprit, Pierre a eu la force de le dire. Les disciples, à partir du jour de la Pentecôte, ont été habités d'une extraordinaire assurance. L'assurance, c'est que la traduction d'un mot qui veut dire exactement, qui évoque en même temps la liberté de langage, la franchise, le fait de pouvoir parler sans être retenu, sans avoir peur, le fait d'être, de faire preuve de hardiesse, de confiance, comme le disait notre traduction tout à l'heure. Nous avons confiance. C'est ce que les apôtres ont fait, c'est ce dont ils ont fait l'expérience, c'est ce que nous avons ici, c'est que lorsque le Saint-Esprit descendu sur eux, ils ont reconnu qu'ils étaient différents d'avant. D'ailleurs, il y a un texte, je crois, dans le livre des Actes, chapitre 4, quelque part, chapitre 4, qui dit que lorsque Pierre et Jean, deux des apôtres de Jésus, ont été arrêtés parce qu'ils avaient guéri un homme au nom de Jésus, et que cela avait remué toute la foule, et que cela avait surtout rendu jaloux les chefs religieux, lorsque Pierre et Jean ont comparu devant ces chefs religieux, qui voulaient les juger, surtout leur interdire de prêcher l'évangile, parce que ça avait trop de succès, eh bien, ils ont beaucoup de choses, les chefs religieux, malgré tout. Ils ont été étonnés, parce qu'ils savaient que Pierre et Jean étaient des hommes sans instruction, des hommes qui n'avaient pas étudié. C'était leur métier, vous le savez, avant, c'était d'être pêcheur, ils pêchaient dans le lac de Galilée, pêcher du poisson pour vivre, c'était leur métier. Ils n'avaient pas fait de grandes études. Et les chefs religieux ont reconnu qu'ils avaient vraiment une assurance extraordinaire et ils ont attribué ça au fait qu'ils avaient été avec Jésus. Il y a donc un retournement de la situation. Les disciples, maintenant, ont la force, le courage, la liberté, la confiance suffisante pour affirmer ce qu'ils sont maintenant, affirmer qui était Jésus et qui il est. Pierre avait peur de le dire, et quand on l'a reconnu, il a nié la vérité. Et quelques jours après, grâce à la puissance de l'Esprit qui est descendue sur lui et sur les autres, il a changé complètement de comportement. Je crois que cette assurance que Dieu donne à ses enfants, parce que cela n'est pas seulement pour Pierre, c'est pour tout le monde, cette assurance qu'il donne, elle est pour tous les croyants. Jésus dit que nous allons être ses témoins maintenant. Pourquoi pouvons-nous vivre avec une telle assurance? Pourquoi pouvons-nous nous aussi connaître traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui puisse compatir notre faiblesse. Au contraire, il a été tenté comme nous, toutes choses sans commettre de péché. Voilà une première base en raison, en nous appuyant sur laquelle nous pouvons avoir une pleine assurance. Jésus veut que ses enfants ne soient pas des simples adeptes d'une religion qui serait, par exemple, la religion chrétienne. Il veut que nous manifestions dans notre vie chrétienne une formidable assurance, pas parce que nous sommes maintenant des gens bien, alors qu'avant nous ne l'étions pas, pas parce que nous sommes les meilleurs, se disant, bon, nous ne sommes pas les meilleurs, nous sommes les meilleurs que dans la mesure où nous laissons Jésus vivre en nous, pleinement. Non, c'est parce que Jésus a accompli une œuvre. Jésus a traversé les cieux. Jésus est venu sur terre. Et sur terre, il nous a donné un modèle. Le texte dit dans le deuxième verset, verset 15, il a été tenté, il a été mis à l'épreuve, comme nous, en toutes choses, mais il n'a pas commis de péché. Jésus a prouvé, par son comportement, que l'on peut vivre dans une chair humaine, dans un corps humain, en résistant aux tentations. Il l'a réussi. Quelqu'un dira, mais il était Jésus. Oui, mais il avait un corps humain. Il avait des yeux humains. Il voyait ce que nous voyons. Il entendait ce que nous entendons. Il vivait d'une manière analogue. Il avait besoin de manger, de dormir, de se reposer. Il vient simplement que Jésus était fatigué, il a dû se reposer. Nous vivons la même vie dans un corps humain. Jésus a été tenté en diverses situations, mais il a été tenté notamment, par exemple, de ne pas obéir toujours à Dieu. Il nous dit que Jésus a toujours obéi à Dieu. Jésus m'a dit un jour, je savais, Père Céleste, que tu m'exauces toujours parce que je fais toujours ta volonté. Pourquoi ça? Jésus vivait dans un corps humain, c'est du texte, il a été mis à l'épreuve comme nous, il a connu toutes les épreuves, il a connu toutes les tentations, mais il a pris l'habitude de résister à chacune d'elles. Pourquoi? Parce qu'il voulait plaire à Dieu. En vivant une vie sans défaut, dans un corps humain, Jésus a prouvé qu'il était possible de le faire. Jésus a prouvé qu'il était possible de remporter la victoire et de mettre en pratique la loi de Dieu. Alors bien sûr, la Bible dit que Jésus maintenant habite dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Paul disait aux Corinthiens, vous êtes le temple de Christ et l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est aussi parce que Jésus, le jour de la Pentecôte, a fait habiter dans ses disciples l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, qu'ils ont été rendus capables de pouvoir vivre comme Jésus. Oh, je pense qu'ils n'ont pas été tout à fait comme Jésus. Ils ont commis parfois quelques erreurs. J'ose pas dire quelques péchés. Je ne sais pas si c'est des péchés ou des erreurs. Disons par exemple Paul et Barnabas, un jour, se sont disputés et les termes employés dans la Bible laissent entendre que la dispute a été assez forte, assez vive. Il y a vraiment eu, on dirait aujourd'hui en bon français, un clash. Bon, vous voyez un mot très français. Il y a eu un véritable clash entre les deux. Ça a été fort, à tel point qu'ils ont dû se séparer. Apparemment, ils travaillaient ensemble. Ils n'étaient pas complètement parfaits, mais ils ont atteint un niveau qu'ils n'auraient jamais pu atteindre auparavant. Pourquoi? Parce que Dieu avait mis en eux son esprit. Dieu avait fait descendre le jour de la Pentecôte son esprit sur eux. Alors ils ont pu s'appuyer sur les promesses de Jésus. Tout était différent. Maintenant qu'ils étaient nés de nouveau, comme l'a dit Jésus à Nicodème, maintenant qu'ils avaient reçu une nature nouvelle, ils ont pu avoir des visions, des visées, des objectifs plus élevés. Jésus leur a confié une mission, leur a même dit, celui qui croit en moi, il fera aussi ce que moi je fais. Et il fera même des œuvres plus grandes. Beaucoup se sont demandé, mais comment peut-on faire des œuvres plus grandes que Jésus? Probablement que Jésus voulait dire des œuvres plus nombreuses, des œuvres plus importantes, parce qu'il n'y a resté que quelques années, peut-être 2 ans, 3 ans, 2 ans et demi, les experts ne sont pas tous d'accord là-dessus, mais entre 2 et 3 ans, l'exercice en ministère public. Et nous vivons par la foi, nous vivons ressuscité des morts. Pierre a ressuscité une femme qui s'appelait Dorcas. Paul a ressuscité un homme qui s'appelait, je crois, Eutychus. Bon, non, tenez pas les noms, c'est pas surtout Eutychus, c'est la première que Dorcas. Bon, on compte quelques fois, Dorcas par-ci par-là, et Eutychus, je n'en ai jamais rencontré. Mais bon, les noms importent peu. Ils ont fait des miracles. Ces hommes-là, cette femme-là et cet homme-là ont été ressuscités. Ils ont fait les mêmes choses que Jésus. Mais ils ont pu en faire plus parce qu'ils ont vécu sur terre, dans l'exercice de leur ministère public, beaucoup plus longtemps. Jésus leur a fait des promesses. Nous voyons dans notre texte, je crois que c'est dans verset 21. Jésus a dit par la voix de Jean, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable. Cela aussi contribue à l'assurance que les chrétiens ont avec Jésus. C'est que comme ils ont maintenant la force, la capacité de mettre en pratique les commandements de Dieu, en fait, puisque nous l'avons dit, c'est une nouvelle nature que reçoivent les chrétiens par l'Esprit de Dieu. Ils reçoivent un cœur nouveau, comme disait Dieu à Jérémie, il a mis en nous une nature nouvelle et nous pouvons pratiquer ces commandements. Et quand nous pratiquons ces commandements, nous avons l'assurance que cela plaît à Dieu, nous faisons ce qui lui est agréable, comme dit le verset, et quoi que ce soit que nous lui demandions, dit la parole de Dieu, nous le recevons de lui parce que nous sommes ses enfants, parce que nous gardons ses commandements, parce que nous cherchons à lui plaire. Le fondement de cette grande assurance, c'est non seulement l'œuvre de Christ, l'œuvre de Jésus, mais aussi le fait que nous allons mettre en pratique cette parole de Dieu, ces commandements. Les apôtres ont vécu une vie nouvelle, toute nouvelle. Ils ont vu qu'ils pouvaient faire des choses qu'ils ne faisaient pas avant. Ils ont vu qu'ils avaient un courage qu'ils n'avaient pas avant. Ils ont vu que Dieu leur donnait de pouvoir réaliser leur rêve, en quelque sorte, c'est-à-dire de vivre comme Jésus, de faire à peu près tout ce que Jésus faisait. Pendant toute l'ancienne alliance, Dieu se manifestait par des chefs comme Moïse, des prophètes comme Élie, comme Samuel, comme Jérémie, comme Isaïe et tant d'autres. Les prophètes accompagnaient le peuple d'Israël, souvent ces prophètes accompagnaient aussi un certain d'entre eux, ont accompagné pendant un certain temps certains rois qui, lorsqu'ils leur obéissaient, lorsqu'ils suivaient la parole que Dieu leur révélait, ont été de bons rois. Et puis, alors ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Mais quand Jésus est venu, il leur a montré vraiment qui était Dieu. Ils avaient les croyants de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Temps, peut-être de l'Ancien Testament, avaient une révélation partielle de Dieu. Par les paroles, les hommes de Dieu que Dieu envoyait. Mais lorsque Jésus est venu sur terre, il nous a dit que, en quelque sorte, Dieu s'est fait chair. Dieu s'est incarné en Jésus. Et il a habité les petits gens, dans son prologue, son évangile, et il a habité parmi nous plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique de lui, du Père. Lorsque Jésus est venu, les apôtres, les disciples, les premiers chrétiens ont eu devant les yeux Dieu en personne. Ce n'était plus juste un prophète, ce n'était plus juste un homme de Dieu, c'était Dieu lui-même. Il ne pouvait donc pas avoir de révélation, de représentation de Dieu plus parfait. D'ailleurs, il y a un disciple de Jésus qui s'appelle Philippe et qui a dit un jour à Jésus, Seigneur, montre-nous Dieu, montre-nous le Père. Ça nous suffit. Bon, il ne faut pas très exigeant. trois ans, disons pendant peut-être 1000 jours en gros. Cet homme n'a pas hésité, il s'est levé, il a senti une force dans son corps, il s'est levé, et il était guéri. Il ne s'est pas levé pour pouvoir aller dans l'eau, non, elle puisque, même s'il en avait mal dans la force, puisqu'il était guéri. Dieu est comme ça. Et pendant 2 ans et demi, 3 ans, les apôtres ont vu Jésus en action. Ils ont vu Dieu en action auprès de Dieu. Auprès de Dieu. En quelque sorte, on pourrait dire que pendant 2-3 ans, les disciples ont vécu sur terre avec Dieu. Vous vous rendez compte du privilège? Je sais que beaucoup de gens, j'ai entendu souvent des gens dire « Oh, moi j'aurais aimé être sur terre quand Jésus était là. » Mais voici, voyez-vous, le jour de la Pentecôte, Dieu est redescendu. Jésus était venu sur terre sous la forme d'un bébé, le soir de Noël, pas forcément avant 5 décembre, mais le vrai soir du vrai Noël, à la vraie date, Dieu seul la connaît. Et le jour de la Pentecôte, Dieu est redescendu encore. C'est pour ça que Jésus a dit, il vous est avantageux de laisser ici la grandiosité, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que le Saint-Esprit viendra. Et si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. En échange de Jésus avec eux pendant 2 ans et demi, 3 ans, Jésus leur a proposé Dieu pour tout le temps. Dieu pour le restant de leur chemin. Et c'est pour cela que, après cette révélation de l'amour de Dieu, se comporter comme Dieu, puisqu'il était Dieu, prend soin des gens. J'ai cité juste un exemple de cet homme qui a été élevé par Jésus, mais vous savez, dans l'évangile, on en trouve des dizaines d'exemples semblables. Dieu est venu sur terre en Jésus parce qu'il voulait nous montrer qu'il nous aimait. Et tout ce que Jésus a fait et dit pendant ces 2 années et demie, 3, c'était Dieu qui le faisait. Alors que reste-t-il maintenant? Que nous reste-t-il à faire maintenant? En conclusion, il ne reste plus qu'à le croire. À croire que Dieu veut toujours faire habiter son esprit en nous. Il veut toujours que nous soyons remplis et conduits par son esprit. Paul disait aux chrétiens de Rome, ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est tout simplement, c'est pas quelqu'un qui un jour se met dans une réunion et dit je veux me convertir, je veux me convertir à Jésus. C'est quelqu'un qui conduit jour après jour, à partir de cela. Comme jour après jour est conduit par l'esprit de Dieu, qui se laisse conduire par l'esprit de Dieu, qui accepte que Dieu vive en lui par son Esprit Saint. La foi, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous permet de vivre ces vies nouvelles. Certains veulent toujours voir des choses, mais Jésus dit, celui qui croit en moi vivra. Vivra, et Jésus a dit autre part, qu'il est venu pour que ceux qui croient en lui aient la vie, mais une vie abondante. C'est ce qu'il a. Jésus ne promet pas une vie religieuse, une de plus, ou une différente des autres, mais toujours une vie non. Jésus dit, ce n'est pas les actions que nous allons accomplir qui vont faire de nous des hommes religieux, des femmes religieuses, c'est notre foi dans cet Esprit Saint qui habite en nous maintenant, dans cette nouvelle nature que Jésus nous a donnée. L'Épître aux Hébreux dit, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Vous voyez, on retrouve ce mot-là toujours, c'est la totale confiance des choses qu'on espère. Et c'est la démonstration, la manifestation de celle qu'on ne voit pas. Nous pouvons toujours dire, mais Seigneur, j'aimerais croire, j'aimerais être certain que tout ce que tu dis dans ta parole, je vais le dire, je vais pouvoir l'accomplir. Jésus dit, la foi, je dis, la foi, c'est l'assurance. C'est l'assurance, c'est la liberté intérieure, c'est la confiance que les choses qu'on espère, on les verra se manifester. Jésus nous encourage à croire ses paroles, et à nous rappeler, comme dit l'Épître aux Hébreux aussi, que nous sommes environnés de témoins. Il y a ces premiers disciples qui ont vécu ce changement parce qu'ils ont cru en Jésus, parce qu'ils ont mis en pratique sa parole, ils ont cru parce qu'il a dit. manifester Dieu dans notre vie à chacun. Alors que le Seigneur nous aide à vivre aussi ce genre d'expérience.